Et bienvenue dans ce débat d'entre-deux-tours de la première circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Autour de la table, deux candidats qui sont en ballotage pour ce second tour. C'est Delphine Bagary pour la NUP et Christian Girard pour le Rassemblement National. On va parler d'économie. Hein. Avant de commencer, peut-être un rapide tableau de bord des Alpes-de-Haute-Provence. Selon l'INSEE, le tissu économique du département est marqué par l'importance des entreprises de moins de 10 salariés, 96% tout de même contre 94% pour la moyenne nationale. Et puis dans le 04, on crée aussi plus depuis 5 ans, toujours selon l'INSEE, 2395 entreprises créées l'an dernier contre 1344, c'était au début du mandat législatif en 2017. Dans le même temps, il y a aussi le nombre de défaillances d'entreprises qui a diminué, moins 47% l'espace d'un an dans les Alpes-de-Provence contre moins 25% en France. Et l'analyste de l'INSEE l'écrit, noir sur blanc, le dispositif de chômage partiel mis en place et financé par l'État a probablement contribué à cette baisse, ce qui fondamentalement n'est pas durable. Alors, comment on assure l'équilibre entre développement durable des entreprises sans tomber dans une politique du quoi qu'il en coûte qui va faire gonfler la dette, puisqu'on rappelle aussi ce chiffre, hein, la dette publique augmente de 72 milliards d'euros, elle s'établit à 116,3% du PIB, c'était au troisième trimestre 2021. Alors, cette question, je vous la pose, Christian Girard. Comment on assure l'équilibre des TPE, des PME, sans tomber dans une politique du quoi qu'il en coûte, trop coûteuse ?
Disons que aujourd'hui notre politique, c'est de réduire les charges aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher. Et ça, c'est très important. Déjà, le chômage baisserait énormément et les entreprises pourraient créer, car il y a énormément de demandes. J'ai rencontré un charpentier, par exemple, j'en ai rencontré plusieurs, puisque dans cette circonscription, on est rapidement dans les hauteurs. Et ils avaient du travail, mais ils étaient seuls, ils n'avaient pas la possibilité d'embaucher, parce que ça leur revenait trop cher. Alors que s'il y avait moins de charges, on embaucherait et l'économie se porterait encore mieux puisqu'il y aurait beaucoup plus de travail.
Delphine Bagary, même question, hein, comment on assure un développement durable ?
Tout d'abord, ce qui est prévu dans le programme de la NUPES, c'est de créer une agence de la relocalisation. Nous voulons relocaliser les entreprises, que les entreprises puissent par filière s'implanter dans les territoires ruraux comme dans d'autres territoires. Et l'agence relocalisation sera chargée non seulement de planifier, mais d'aider, y compris financièrement, les entreprises qui seront chefs de file dans le développement, notamment tourné vers l'écologie. Je pense que l'importance de ce qui a été fait pendant ce quinquennat sur le quoi qu'il en coûte, comme vous le disiez, et les aides qui ont été apportées aux entreprises, qui ont marché pour certaines, qui ont moins marché pour d'autres, fait qu'elles étaient accordées sans conditionnalité. Ce que nous proposons, nous, c'est que les aides publiques aux entreprises puissent être conditionnées à un résultat non seulement écologique, mais aussi social. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que nous ne pouvons pas accepter que les aides publiques qui sont données aux entreprises ne puissent pas aller vers un programme écologique ambitieux et vers une ambition et de progrès social importante.
Donc les entreprises qui seraient les plus polluantes ne seront pas aidées ?
Il est prévu, en tout cas, de ne pas aider les entreprises polluantes, sans condition, en tout cas, de non-dépollution, on va dire. Et le principe du pollueur-payeur sera complètement appliqué.
Alors, on parle aussi beaucoup de salaire, forcément, quand on parle d'entreprise avec le SMIC. Il a augmenté de 2,65% au 1er mai dernier. Il est désormais de 1302,64 euros net. Mais alors, les avis divergent, programme contre programme. Par exemple, pour la NUP, il faut porter immédiatement le SMIC à 1500 euros net par mois. Jérémy.
Madame Bagary, expliquez comment aux patrons des PME et des TPE du territoire, comment ils vont pouvoir augmenter ce SMIC sans mettre la clé sous la porte.
L'augmentation du SMIC, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, avec le SMIC, on n'arrive pas à vivre. Il y a une inflation qui est majeure, qui va continuer encore dans ce pays. Il y a des personnes qui n'arrivaient juste même pas à vivre, même au début du mois.
tout le monde et partage ce constat. Comment vous faites ?
Donc, pour pouvoir au moins récompenser les travailleurs, il faut augmenter ce SMIC et ça se fera par décret dès que nous serons élus et pour le porter à 1500 euros. Bien entendu, on ne peut pas laisser de côté les entreprises et les petites entreprises qui font peu de profits et qu'il faudra donc aider de façon extrêmement ciblée à pouvoir faire ces augmentations sur les travailleurs pour qu'ils ne licencient pas. En revanche, les entreprises qui, elles, font des profits, qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires, celles-là, elles pourront aisément augmenter le SMIC. Au-delà de ça, l'important, c'est que tout au long de sa vie, on ne reste pas au SMIC. Ce que nous proposons, nous, c'est de faire une grande conférence sur les salaires, dès que nous serons élus, avec tous les partenaires sociaux, pour pouvoir réfléchir sur l'augmentation du salaire et sur les possibilités d'évolution tout au long de sa carrière.
Parce qu'il y a aussi les métiers de deuxième ligne, ceux qui ne sont pas au SMIC, mais qui sont légèrement au-dessus. On leur promet quoi à eux ?
Ben voilà, cette conférence pour les salaires, parce qu'il faut absolument réfléchir sur comment on peut progresser, comment on peut avoir des formations et comment on peut, même si on change d'entreprise, avoir une évolution dans sa carrière et une évolution de salaire également.
Et si un patron vous dit « je ne peux pas augmenter mon salarié », vous lui répondez quoi ?
Eh ben qu'on regarde réellement ses chiffres.
Et pour vous, Christian Girard, au niveau du SMIC, quel est le bon niveau au RN ?
Aujourd'hui, quand même, s'il y a de l'embauche et s'il y a du travail, je pense que les entreprises d'elles-mêmes, elles pourront augmenter. Le SMIC, c'est une chose, c'est une loi qui est nationale. Les salaires dans les entreprises, quand elles augmentent, c'est que l'employeur peut faire les augmentations. C'est deux choses différentes. Après, il est certain que la politique de la gauche, c'est tirer des gens d'en haut vers le bas pour une question, un idéal d'égalitarisme, alors que c'est pas tellement la chose là.
Delphine Bagary, tirer les gens d'en haut vers le bas.
Je suis pas d'accord. Oui. Quand tout le monde monte, on monte tous ensemble. Et que c'est une histoire de cohésion, effectivement, de lutte contre l'inégalité, mais surtout de justice et de justice sociale et de justice fiscale, on en parlera tout à l'heure si vous voulez.
Christian Girard, je reviens quand même sur ce SMIC. Alors, l'État a la main mise sur le SMIC, mais pas sur les métiers de seconde ligne. Comment on fait ? Comment on fait pour qu'il y ait un cercle vertueux pour tous les autres salaires ?
C'est ce que je vous dis, c'est s'il y a de l'embauche, s'il y a de l'activité, puisque les entreprises sont bloquées par les charges qu'elles ont actuellement. Et s'il y a de l'emploi, s'il y a... Parce qu'il y a des entreprises qui ont des idées de créer des filiales parce qu'elles ont la possibilité, parce qu'il y a la demande, mais qui ne peuvent pas embaucher pour des raisons de fiscalité. Si cette fiscalité est baissée, automatiquement, il y aura de l'emploi. Les entreprises embaucheront, elles créeront de l'énergie, elles créeront de la richesse, et cette richesse pourra être partagée avec le personnel.
Quel est le bon taux de charge aujourd'hui ?
Le bon taux de charge ?
Quel est le bon taux de charge, selon vous ?
Déjà, il y a des fiscalités qui se sont créées, qui n'auraient jamais dû l'être pour diverses choses. Par exemple, la CSG2 sur certaines entreprises, sur les employés, est très grave.
Une baisse des charges sur le patronat, sur les salariés ?
Sur les salariés, sur les deux, absolument. Absolument.
Et vous financez comment ?
Eh bien, il y a suffisamment d'endroits où il y a des pertes d'argent. Il y a déjà la fraude fiscale qui est énorme. Elle est énorme. Il y a d'autres endroits, par exemple sur les économies à faire sur le... Excusez-moi. Oh mince.
On va vous aider.
Sur l'immigration.
Sur l'immigration.
Voilà, absolument, oui.
Donc vous financez l'augmentation des salaires par la lutte contre l'immigration.
Contre l'immigration, et c'est pas une lutte là c'est pas une lutte. La fiscalité est importante, mais la fraude fiscale l'est encore plus.
Vous l'estimez à combien la fraude fiscale aujourd'hui en France ?
Oh, il y a plusieurs milliards d'euros.
Et la lutte du gouvernement est estimée aujourd'hui à 6%, hein, 6% de contrôle fiscal en plus en l'espace d'un an, soit un total de 7,8 milliards d'euros. Donc ils sont revenus dans les caisses de l'État.
Vous voyez qu'il y a de l'argent à chercher.
Il est déjà cherché, semble-t-il.
Oui, mais encore. Parce que s'ils ont trouvé cette année 6 milliards...
Combien ?
Si cette année vous dites qu'ils ont trouvé 6 milliards, ils en trouveront encore parce que c'est un problème grave.
Alors, il y a aussi la question de la main-d'œuvre qui se pose dans le volet entrepreneurial dans les Alpes-de-Provence. Fin mai, 1093 offres de Pôle emploi étaient encore à pourvoir dans les Alpes-de-Provence, dont 273 pour l'hôtellerie-restauration. Et puis en face, il y a bien sûr le taux de chômage dans le département. Il est de 8,4% avec une baisse de 0,7% entre avril et mai. Jean-Luc.
Mais pour rebondir sur l'hôtellerie-restauration, malgré les revalorisations salariales et les aménagements horaires consentis par l'UMI, le risque encouru pour ce secteur sur certaines portions du 04, quand on sait que le tourisme, par exemple, pèse 30 à 40% du PIB sur certains secteurs, comment mettons-nous en adéquation l'offre et la demande ?
Christian Girard.
Allez, Christian Girard. Les gens ne veulent plus travailler. J'avais à Saint-André-les-Alpes une restauratrice qui avait cherché pendant une semaine, pour 2 heures le week-end, une personne, elle ne l'a pas trouvée. Et pourtant, les gens voudraient bien travailler de temps en temps, mais même si on offre beaucoup plus de salaire, aujourd'hui, les gens, ils refusent le travail.
Pourquoi ?
Donc, parce qu'ils ont beaucoup d'aide, et puis parce qu'ils se sont habitués à vivre de leurs aides tranquillement, et ils n'ont plus l'envie... Ils voient que certains sont en France sans travailler, et donc pourquoi pas eux, quoi, voilà.
Donc vous les enlevez les aides, et les gens sont obligés d'aller travailler.
Je pense que les enlever, c'est quelque chose qui doit bien se calculer, parce qu'il y en a qui sont dans le besoin et qui vraiment ne peuvent pas faire autrement, mais ceux-là, le plus souvent, travaillent.
Et pour ceux qui n'ont pas envie d'aller travailler, vous faites comment ?
Eh bien, il faut, après quelques avertissements, je pense qu'il faut les enlever les aides, oui.
Donc les radier de Pôle emploi ?
Oh ben disons qu'aujourd'hui, quand on nous dit le chômage baisse, vous savez, c'est un cercle qui n'est pas très bon, parce que si on regarde bien, lorsque Pôle emploi propose une formation, automatiquement, cette personne-là, alors qu'elle est à Pôle emploi, elle est encore au chômage, on la radie pendant le temps de sa formation. Donc l'État paie pour la formation et on radie, alors qu'il devait être encore inscrit au chômage. Les inscriptions au chômage, aujourd'hui, elles ne sont pas justes. On n'a pas la réalité.
Donc, de mauvais chiffres, Delphine Bagary. Vous constatez aussi de mauvais chiffres, en tout cas au niveau du chômage, une baisse qui n'est pas justifiée dans les Alpes-de-Provence ?
Écoutez, moi, je voudrais quand même réagir à une petite chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est de parler de charges sociales. Nous, à gauche, on parle de cotisations tout le temps, parce que c'est méconnaître, quand on parle de charges sociales, que les cotisations sociales font notre protection sociale, qu'elle soit la protection sur le chômage, la protection pour la vieillesse, payer les retraites des retraités actuellement, et la protection aussi concernant la santé. Et moi, je crois que c'est important quand même de le rappeler, et que les cotisations sociales, elles sont là aussi pour nous protéger, et pour nous protéger tous. Donc, déjà
donc
parler
pas de
charges,
diminution de cotisation.
Pas de diminution de cotisation d'une part, et en plus, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est l'augmenter sur les hauts salaires. Pouvoir faire payer plus ceux qui en ont moins besoin, et persister pour que les autres puissent quand même bénéficier tous et toutes, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand même que tous et toutes, nous soyons protégés tout au long de la vie, et c'est ce qui est porté dans le programme de la NUPES.
À partir de quand on est un haut salaire ?
Les économistes vous diront, il y en a certains qui disent que c'est pas une histoire de haut ou pas haut, mais que à partir de 4000 euros par mois, vous commencez à pouvoir net vivre correctement. Ce sont les économistes qui le disent, c'est pas moi.
Et ceux qui gagnent en dessous de 2000 euros, Delphine Bagary?
Je voudrais quand même réagir aussi sur la question que vous avez posée sur Pôle emploi. Et là se pose la question du service public. Pôle emploi s'est vu diminuer également ses travailleurs, ses employés, ses salariés, comme beaucoup de services publics depuis plusieurs années. Et il se trouve que les salariés de Pôle emploi, maintenant, n'ont plus le temps d'accompagner, de faire un accompagnement dans la dentelle des demandeurs d'emploi.
Mais le chômage baisse.
Et la région accompagne.
Le chômage baisse, mais tout à l'heure, vous avez dit comment on fait, parce que on n'arrive pas à faire que les chômeurs qui existent sur notre territoire puissent répondre aussi aux demandes de travail du territoire. Je pense que déjà, si on mettait en adéquation les formations qui sont proposées, s'il y avait un vrai accompagnement social, parce qu'on sait que l'humain doit être pris dans sa globalité, non pas que sur le problème de sa formation et du travail, mais aussi dans sa santé, dans son environnement. On a un problème de mobilité, de gens qui n'ont pas le permis.
Donc ce qui veut dire aujourd'hui, par exemple, qu'une secrétaire qui ne trouve pas de travail doit se reconvertir dans l'hôtellerie-restauration ?
Je dis qu'aujourd'hui, l'on peut pouvoir se former sur la demande qu'on a, à condition de pouvoir être informé correctement et d'être aussi accompagné. Parce que ce n'est pas qu'une question de changer de métier ou pas de changer de métier, c'est aussi une question de mobilité, de prise en charge de façon globale de toute la famille et des conditions de vie dans lesquelles on est.
Jean-Luc Icard de Haute-Provence Info.
Aujourd'hui, le gouvernement a énormément misé sur l'apprentissage. Il y a 800 000 jeunes aujourd'hui qui sont en apprentissage, on en a même dans nos médias. Est-ce que c'est la bonne solution pour vous ?
Christian Girard.
En alternance dans les entreprises.
L'apprentissage de toujours, par le passé, les apprentis commençaient à la sortie de l'école, quand ils avaient le certificat d'études primaires, ils avaient de l'apprentissage et c'était vraiment le grand apprentissage, parce que quand ils sortaient de cet apprentissage-là, ils avaient un métier. Et ça, c'est le passé, bien sûr.
Donc aujourd'hui, il faut amplifier l'apprentissage.
Oui, il faut amplifier ça. Parce que les formations que l'on donne ne sont pas toujours... Bon, on prend, les gens, je sais, les jeunes prennent, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, ils disent oh « non, finalement, ça ne me convient pas. » Ils ne sont pas bien suivis. Ils ne sont pas bien suivis. Et donc l'apprentissage doit être beaucoup plus... L'apprentissage doit être, quand ça vient de Pôle emploi, doit être beaucoup plus ciblé. Et surtout, c'est sur les besoins. Si on forme des gens pour servir et que la restauration dans notre département, c'est vrai, en a vraiment besoin. Mais si on n'a pas besoin, il faut pas former ces gens-là. Il faut les former sur des métiers dont
Donc vous êtes d'accord avec Delphine Bagary ?
Sur ce point-là, pour pas être d'accord, c'est difficile.
Après, Pôle emploi ne fait pas le job, en fait.
Non, mais moi, ce que je reproche de Pôle emploi, c'est d'enlever ces gens comme demandeurs d'emploi du fait qu'ils font une formation, alors que c'est l'État qui paie quand même. Donc, ils sont toujours au chômage, c'est tout.
Delphine Bagary.
Je dis que l'apprentissage peut répondre à condition qu'il ne soit pas subi. Ouais. Et ça, c'est un grand enjeu pour la formation de notre jeunesse. Parce qu'on peut parler quand même des jeunes, ces jeunes qui ont besoin d'émancipation, qui ont besoin de choisir leur voie, de choisir librement, sans contraintes financières et sans injonctions sociétales. Et nous, ce que nous proposons dans le programme de la NUP, c'est justement de leur donner, à partir de 18 ans, une allocation autonomie, une garantie autonomie, afin qu'ils puissent choisir librement leur avenir, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient d'études.
Quelles conditions, quelle contrepartie vous leur donnez ? Ils ont 18 ans, ils ont une allocation ?
Ce que veulent les jeunes aujourd'hui, c'est ça, c'est l'émancipation. Ils ont 18 ans, ils ont une émancipation, quelle que soit leur envie, quelle que soit...
Sans contrepartie, s'ils restent au chômage ?
C'est ce que nous devons à la jeunesse, c'est ce que nous devons à la jeunesse aujourd'hui.
Christian Girard.
Et comment vous le financez ?
Il y a plusieurs moyens de le financer.
Parce que quand même, c'est grave. Là, vous allez encore faire ce que je disais à peine, vous allez prendre sur le haut pour tirer sur le bas.
Nous, ce qu'on va faire, c'est effectivement...
Et ce seront toujours les mêmes qui paieront.
Rétablir l'impôt sur la fortune, oui, peut-être les mêmes paieront, les grandes fortunes paieront.
Oui, il n'y a pas que les grandes fortunes. Les grandes fortunes, vous les donnez à quel niveau ?
En 10 ans, les 500 plus riches de la France ont multiplié leur patrimoine par 5.
Oui, mais cela, c'est des très très grands. Et c'est là qu'on peut retrouver de l'argent, ça c'est certain.
Quand on va rendre progressif l'impôt sur le revenu, réellement progressif, en créant 14 tranches et non pas 5 comme il y en a en ce moment, c'est aussi ça. C'est de se dire que tous les très hauts revenus, les plus hauts revenus, vont payer plus que les plus bas.